Nous prions avant de lire dans les Écritures. Seigneur, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde nos cœurs desséchés. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous lisons dans les pages de l'Écriture. Que parle ta parole? Amen. C'est au livre du prophète Ézéchiel qu'Éléonore et Théo nous invitent à lire le texte qui portera notre méditation de ce jour. C'est eux qui l'ont choisi. Donc au chapitre 47 du livre du prophète Ézéchiel, les versets 1 à 12. Il s'agit d'une partie de la dernière des visions que l'on peut lire dans le livre d'Ézéchiel. À commencer par la description du temple et puis voici le moment de notre lecture. Il me fit venir vers l'entrée du temple. Or, de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison vers l'orient, car la façade de la maison était à l'orient, et l'eau descendait au bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par la porte nord. Puis il me fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui est tournée à l'orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'orient, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, elle me venait aux chevilles. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, elle me venait aux genoux. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, elle me venait aux reins. Puis il mesura 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté, de l'eau pour un nageur, un torrent où l'on n'avait pas pied. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux des deux côtés. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba. Elle pénètre dans la mer. Quand elle s'est jetée dans la mer, les eaux sont assainies. Et alors, tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. Ainsi le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là, et les eaux de la mer seront assainies. Il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive, et depuis Ein Gedi jusqu'à Ein Eglaim, ce sera un séchoir affilé. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la grande mer. Mais ces lagunes et ces marais ne seront pas assainies. On les laissera pour avoir du sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Franchement, on pourrait se contenter de ce texte. Des mots du prophète, des images de la vision. Parce qu'une vision, c'est un poème en images, une puissance de suggestion, une ouverture dans ce qui est vu pour voir autrement, un autre point de vue qui transforme l'intelligence, la compréhension et l'être même. Oui, nous pourrions nous contenter du texte, laisser les mots et les images rouler en soi et s'amplifier comme le torrent dont il est question qui gonfle au fur et à mesure qu'il s'éloigne de sa source, et le poème de la vision, en se déployant dans l'intériorité de l'être, y produirait ce dont il parle, nourriture et guérison, fécondité et désaltération, la vie foisonnante. Parce que les mots de la vision, du poème, s'ils ne sont que des mots, sont aussi remplis de plus que d'eux-mêmes. Ils traduisent une confiance et une espérance dont nous croyons dans l'Église du Christ, qu'elle reflète la bonne nouvelle, celle qui a conduit ce matin Éléonore et Théo à amener Octave parmi nous. Alors ce matin, nous puiserons quand même dans ce texte quelques mots, quelques gorgées d'espérance, peut-être tout un flot de vie. La vision finale du livre d'Ézéchiel commence au chapitre 40. Et elle est vision du temple, d'un temple minutieusement décrit, mesuré, orienté, organisé, depuis la muraille extérieure jusqu'à l'autel et au rituel des sacrifices, depuis l'emplacement de la porte réservée aux princes jusqu'aux réglementations d'accès des différents espaces, depuis les règles de vie et de service des prêtres jusqu'à la localisation des cuisines pour cuire la viande des sacrifices. Vous pouvez le lire, tout est minutieusement décrit. Ézéchiel voit dans sa vision la gloire de l'Éternel venir habiter dans ce temple. Ézéchiel, lui, le prophète qui avait prophétisé sur la destruction du temple de Jérusalem, qui avait décrit la gloire de Dieu s'en retirant, abandonnant ce lieu. Ézéchiel, le prophète qui a été déporté très tôt en Babylonie, où il n'est plus possible de rendre un culte à l'Éternel selon la loi de Moïse. Après la vision des ossements desséchés redevenant peuple vivant sous l'action de l'Esprit, au chapitre 37, voici la vision d'un temple nouveau. Malgré la destruction du temple à Jérusalem, malgré la déportation à Babylone, ce n'est pas la fin, proclame Ézéchiel. Il ne verra pas l'édit de Cyrus de Perse, ni le retour d'exil, ni la reconstruction d'un temple à Jérusalem. Mais il annonce que la fin du premier temple, la fin du royaume de Juda, la fin du culte, eh bien, ce n'est pas la fin. Il y a un au-delà de la catastrophe, un au-delà tenu par la fidélité de l'Éternel. Il y a un avenir qui n'est pas le futur des humains, car il est avenir en Dieu. Ézéchiel est un passeur d'espérance. La vision du prophète n'est pas limitée au temple. Nous l'avons lu. Elle déborde en une source jaillissant de dessous le temple, une source qui devient un torrent qui descend vers l'est, vers l'Orient, dans la Araba, pour se mêler aux eaux de la mer. La Araba, c'est la vallée désertique où coule le Jourdain, à l'est de Jérusalem. Et la mer dont il est question, c'est celle que la Bible hébraïque désigne sous le nom, différents noms d'ailleurs, la mer de sel, la mer de la Araba ou la mer de l'Est. C'est celle que nous appelons la mer morte. parce que ces eaux, à la salinité extrême, n'accueillent aucune vie. Et les eaux douces du Jourdain qui se jettent pourtant dans la mer morte n'y changent rien. Il n'y a pas de vie dans la mer morte. Et si quelques oasis sont habitées à proximité de ces rives, comme celle qu'on nomme En Gedi, aucun pêcheur n'embarque jamais, ce serait en vain, sur ces eaux qui ne recèlent aucune vie. La mer morte est un lieu désolé, et nul n'y peut rien. Et pourtant, la vision donne à voir cette mer devenue riche, grouillante de vie, de multiples espèces de poissons, se croirait au premier chapitre de la Genèse, et des pêcheurs installés en nombre sur ses rivages, parce que les eaux du torrent issu du temple ont assaini les eaux trop salées. Nous pourrions aussi traduire que les eaux issues du temple ont guéri les eaux mortes. L'eau du torrent fait passer de la mort à la vie. L'eau qui sort du temple dans la vision, c'est la métaphore de ne ce qui vient d'aucun temple construit par les humains, ni d'aucune religion, mais de Dieu seul. L'eau qui sort de dessous le temple parle du Dieu qui donne, pas d'un Dieu qui prend, ni d'un Dieu qui retient, mais d'un Dieu donnant. Donnant la grâce, la joie, la vie, l'esprit, la parole, le Christ et la sagesse pour un monde à venir et pour la vie à venir. Bien sûr, nous, c'est-à-dire les parents d'Octave, son parrain, sa marraine, sa famille, ses frères et sœurs de l'Église, nous ferons de notre mieux pour transmettre à Octave l'importance et le goût de la lecture et de l'écoute des textes bibliques, le goût de ces poèmes qui élargissent l'espace intérieur des personnes. Et nous nous efforcerons aussi de témoigner auprès de lui de la confiance et de l'espérance dont Ézéchiel fait part, confiance et espérance dont les disciples du Christ sont appelés à rendre compte. En Dieu, aucune forme de mort n'a le dernier mot, et notre vocation est de vivre, mais de vivre en étant vivant. Ou pour le dire autrement, nous nous efforcerons de transmettre à Octave cette conviction que le monde n'est pas suffisant pour nous offrir, nous donner la vie qui est vie véritable. Ou pour le dire encore autrement, nous nous efforcerons de faire comprendre à Octave que nous ne nous satisfaisons pas de la mer morte. Pas celle où se jettent les eaux du Jourdain, là-bas. Malgré toutes les descriptions et les précisions au centimètre près de la vision d'Ézéchiel, ce qu'il nous donne à penser relève d'une topographie toute spirituelle. Nous ne nous satisfaisons pas des lieux morts. Nous ne nous satisferons pas des lieux de mort, qu'ils soient des lieux sur terre ou qu'ils soient des lieux intérieurs des êtres humains. Ézéchiel n'est pas le prophète de la facilité, mais un homme qui voit et qui exprime la complexité et l'ambiguïté de l'existence humaine et de ses relations. Et l'eau en est une bonne illustration. Elle est vivifiante, de boisson en irrigation, et elle est impropre à la vie par excès de sel ou de pollution. L'eau est destructrice d'inondations, en naufrage, où elle est désaltérante, reconstituante. L'eau, c'est l'eau de la vie ou l'eau de la mort. Mais l'eau du baptême, celle qui a été versée sur le front d'Octave, est aussi aujourd'hui symbole de la vie gracieusement donnée et symbole de ce passage de la mort à la vie que l'évangile de Jean appelle « nouvelle naissance » ou « naissance d'en haut », puisqu'il ne suffit pas de naître pour être véritablement vivant. Où est la mère morte ? Quelles sont les eaux mortes ? Le texte du prophète Ézéchiel, de même que la présence d'Octave et des autres enfants parmi nous aujourd'hui, exige de nous la reconnaissance humble et déterminée de ces lieux sans vie. Nous qui recevons de quoi discerner au moins un peu ce qui fait vivre et ce qui ne permet pas la vie des vivants. L'image de l'eau prégnante dans la vision que nous puisons largement dans le poème est toujours associée, et particulièrement dans la vision, au mouvement, au dynamisme et à un foisonnement de vie, pas seulement les poissons, mais l'abondance des récoltes, des arbres qui poussent au long du torrent. Un foisonnement qui est lui aussi l'expression d'une dynamique, débordante. Cela commence avec le filet d'eau qui sourde dessous le temple, qui grossit rapidement de l'eau aux chevilles, puis aux genoux et puis aux reins. Et puis enfin, il faut nager parce que le flot a monté, gonflé, jusqu'à envelopper complètement l'humain qui n'a plus pied. Mais ce n'est pas pour le noyer, ce n'est pas pour l'engloutir, parce que cette eau est l'eau vive pour vivre. Le passage de la mort à la vie, mise en scène dans la vision, exprime la dynamique de cette création qui n'est pas achevée, cette création qui est l'œuvre du Dieu vivant. Et il s'agira de parler à Octave de ce Dieu qui fait vivre de vie vivante, qui fait passer la vie, qui fait passer à la vie par son esprit, par sa parole, par son Christ et avec l'aide de ses témoins. Le mot « vie », dans son sens de vie vivante, n'est pas défini dans des formes obligées. Il est bien des manières d'être appelé à ce passage de la mort à la vie. Il est bien des manières de s'y engager, de lui donner forme. Parce que cette vie est inépuisée, elle est foisonnante, pas tant en termes d'espèces vivantes, qu'en termes de manière d'être vivant là où l'on est, dans les situations dans lesquelles on se trouve. Il s'agit de se laisser inspirer, de faire œuvre de créativité. Ni le moralisme, ni le matérialisme ne contiennent la vie vivante. Ce qui est dessiné dans la vision d'Ézéchiel, dans cette eau morte qui devient eau accueillante à la vie, pointe plutôt vers ce que Jésus le Christ appelle dans les évangiles synoptiques le règne de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, Jésus parle de la vie éternelle, c'est-à-dire une plénitude de vie, la présence de Dieu agissante, non plus dans le temple, mais en Christ, dont un germe est semé en chacun de nous. Le règne de Dieu, c'est cette dynamique de l'être humain en devenir, un devenir suscité dans les rencontres, dans les circonstances, dans les choix de l'existence. Et Simon le pêcheur de poissons devient le pêcheur d'humains. Lévi le collecteur d'impôts devient un disciple. La femme samaritaine devient l'apôtre pour les Samaritains et Saul le pharisien persécuteur des disciples du Christ devient l'apôtre pour les nations. Autant de figures propres à ne pas bloquer les devenirs possibles, à ne pas les figer dans des modèles prédéfinis. Nous ne savons pas ce que deviendra Octave, Mais nous souhaitons et nous ferons en sorte qu'il devienne cette octave Fils de Dieu qu'il est déjà, même s'il ne le sait pas. L'eau coule, elle coule, elle coule, et ses rives ne sont pas de béton encadrant un cours d'eau. Ses rives sont des vergers extrêmement généreux. Là où la mer est morte, là où l'on se suffit à soi-même, là où l'on rapporte à soi-même tout ce qui est, tout ce qui arrive, c'est là que Dieu fait couler l'eau vive qui guérit l'eau morte en eau pleine de vie, par cette parole qui fait toute chose nouvelle. Nouvelle parce que mort, c'est mort, et qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière. Ça, c'est ce que font les humains, revenir en arrière. C'est ce que font les humains qui se satisfont d'eux-mêmes et du monde, même lorsqu'ils en souffrent. Et même lorsqu'ils en souffrent jusqu'à ce que leur satisfaction échoue en désespoir, parce qu'ils pensent que leurs idées et leurs forces vont suffire à vivre vraiment. Mais le monde ne suffit pas. Et nous ne suffisons pas au déploiement de la vie vivante. Il nous faut ce qui vient d'un au-delà, que l'on nomme transcendance, éternel ou le Dieu de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prions que ton règne vienne, parce que nous aspirons à la guérison de la mer morte, de toutes les mers mortes, et cela exige de nous la critique du monde en ce qu'il porte de mortifère et de déshumanisant par rapport à notre vocation de vivant. La mer morte, ce sont ces rapports de force et de domination, la convoitise qui pousse à consommer choses et personnes, la prédominance des traditions sur la dignité de l'humain, les injonctions à s'en sortir tout seul, à être suffisant, c'est-à-dire aussi méritant. Mais nous ne sommes ni suffisants, ni méritants, et le monde non plus n'est pas suffisant pour la vie véritable, pour la vie en plénitude. Et le baptême d'Octave nous le rappelle à tous ce matin. Nous vivons véritablement de ce qui nous est donné, de ce qui ne vient ni de nous ni du monde, d'une parole, c'est une manière de le dire, une parole dite sur chacun. Une parole de bénédiction qui coule en nous comme la rosée sur le mont Hermon, comme l'huile sur la barbe d'Aaron, chante un psaume. Et si un jour Octave vous demande « Mais alors c'est pour quand ? » C'est pour quand que cela arrivera ? C'est quand ? Eh bien, vous pourrez lui dire que c'est déjà là. Comme cela déjà là pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour plus tard. C'est aussi ce que proclame une autre célèbre vision biblique, celle de la Jérusalem céleste, vision de Jean de Patmos dans le livre de l'Apocalypse, une vision toute imbibée de la vision d'Ézéchiel. Elle proclame qu'en dépit des apparences, le Christ règne. Cette vision de l'Apocalypse ne révèle pas le futur, mais le présent véritable, au travers de l'épreuve de la puissance impériale qui écrase l'humanité. L'avenir n'est pas pour demain, il est déjà là, il a déjà commencé. Et en ce premier dimanche de l'année, en ces jours où nous échangeons des vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé, des vœux de réussite, des vœux de bonheur, le poème de la vision d'Ézéchiel et le baptême d'Octave nous avisent que Dieu ne donne pas une bonne santé, Il nous donne la ressource d'une grâce inconditionnelle dont naît la foi qui endure. Dieu ne donne pas le bonheur des satisfactions, mais une joie qui se découvre même dans les épreuves. Dieu ne donne pas la réussite de nos projets, mais l'accomplissement de notre vérité d'être. Et il y a des signes qui indiquent que la puissance de vie de la parole est à l'œuvre, des signes qui montrent que l'eau vive coule en abondance, et nous les voyons, nous les reconnaissons dans les expériences de fraternité, d'accueil, d'hospitalité, dans les vrais partages, ceux qui enrichissent, dans la reconnaissance qui élargit l'espace de nos tentes personnelles ou communes. Ce sont des signes de renversement de situation, comme la mer morte devient grouillante de vie. Ce sont les signes d'un vivre autrement, selon la conviction que le monde ne suffit pas. Un vivre autrement, sous de multiples formes, et où se dessine un avenir et un présent, hors répétition et hors la mort. Il faudra indiquer ces signes à Octave et à tous les enfants, afin qu'ils puissent reconnaître ce qui fera signe, ce qui sera signe pour eux quand ils auront grandi dans le monde où nous vivrons, où nous ne serons plus là. Et ainsi, ils pourront s'y tenir. Quel que soit ce monde, et nous ne savons pas ce qu'il sera, et ils pourront l'interpréter, et ils pourront s'y tenir présents, non pas de manière passive, mais de manière dynamique. Parce que l'eau vive aura coulé. Un autre monde vient. Parce que Dieu vient, survient, advient, créateur. Et cet autre monde est déjà là, dont Jésus le Christ a proclamé qu'il est fondé sur l'amour, pas le sentiment, mais la volonté que l'autre soit vivant. Le baptême d'Octave en est également le signe, car il s'agit bien de vivre, et vivre, c'est pratique, fondé sur une confiance et une espérance, mais c'est pratique. À 1 an et 8 jours, Octave commence tout juste son apprentissage. Et vous, ses parents, parrains, marraines, famille et famille spirituelle, vous êtes là, nous sommes tous là pour l'y encourager, pour l'y aider, pour l'y accompagner et pour ainsi, nous aussi, le bénir. Amen.